Merci, cher président. C'est difficile de passer après une mythologue aussi aguerrie que Jacqueline Risset et des géopoliticiens aussi pointus que nos deux ambassadeurs. Je vais essayer de ne pas être trop répétitif. Alors, c'est vrai que la Méditerranée, ça, c'est indéniable. Elle appartient à la fois à l'espace fantasmé du mythe et à l'espace très réel de la géopolitique. Ce qui me frappe quand même dans le déroulement de ce colloque et au fur et à mesure que nous approchons de sa conclusion, c'est que la dure et crue réalité tend à prendre le pas sur ce que peut avoir de consolatoire le mythe. Mais tant mieux, hein, on est là pour parler des choses telles qu'elles sont et non pas telles que nous aimerions qu'elles fussent. L'actualité du mythe, elle reste très très forte. Et là-dessus, je ne reviens pas sur ce qu'a dit excellemment Jacqueline Risset. Je voudrais simplement compléter d'un mot par une citation qui me paraît inévitable. Personne, je crois, n'a su mieux interpréter le sens profond de ce qu'était la navigation mythologique que Dante, effectivement. Et je rappelle ce qu'il disait, ce qu'il faisait dire par la bouche d'Ulysse, sa doublure, lorsque Dante lui rend visite aux enfers. Ulysse rappelle l'exhortation qu'il lançait à ses hommes, à ses navigateurs, « Fatti non foste a viver come brutti, ma perseguir virtute e conoscenza ». Et il dit également, Ulysse, « J'ai navigué pour divenir del mondo esperto ». Je crois que tout ça reste d'une très brûlante actualité, et que la référence au mythe d'Ulysse pourrait nous inspirer. Qu'est devenue la mer mythologique aujourd'hui? Eh bien, pour être un peu simpliste, je dirais un couloir stratégique, une autoroute commerciale et un carrefour migratoire. C'est la réalité d'aujourd'hui. C'est une dure réalité. C'est aujourd'hui, on les bruits de bottes dans la Méditerranée et les cris des migrants couvrent un peu le champ des sirènes. C'est pas nouveau. L'histoire de la Méditerranée, c'est celle-là. Brodel disait... Dans toute la Méditerranée, l'homme est chassé, emprisonné, vendu, torturé. Alors, effectivement, ce n'est pas une façon de se consoler de la réalité d'aujourd'hui, mais cette histoire est celle-là. Aujourd'hui, disais-je, couloir stratégique, au navire d'Ulysse ont succédé les escadres de la 6e flotte américaine, dont la Méditerranée est devenue le champ de manœuvre. Et alors, je me demandais très ingénument si l'on apprenait aux jeunes Marines de l'Idaho et du Kansas, qui sont basés à Gaeta, je vous rappelle, que c'est près de ce rivage de Gaeta que la magicienne Circé retint Ulysse pendant plus d'une année, et que leur port d'attache tire son nom de Caïeta, qui fut la nourrice d'Énée, morte en ces lieux, ainsi que nous l'apprend Virgile, comme vous le savez tous, au début du livre 7 de l'Énéide. Aux marins d'Ulysse ont également succédé les migrants qui sont chassés par la misère et l'oppression et dont la Méditerranée, on l'a dit à de multiples reprises, est devenue le sinistre tombeau. Façon de faire revivre, 25 siècles après, Charybde et Scylla et leur funeste service. Mais il n'y a pas que les hommes qui souffrent. Et à cet égard, je voudrais quand même, moi j'ai été quand même un petit peu choqué qu'il y ait si peu de réactions de grandes figures intellectuelles ou de grandes autorités morales à la suite du drame de Lampedusa. Et j'ai pensé soudain à quelqu'un qui a disparu, malheureusement, qui est Vincenzo Consolo, et dont je pense que s'il avait été encore de ce monde, lui, qui était justement très très sensible à cette relation, à tout ce qui se passait dans le canal de Sicile, je pense qu'il aurait su trouver les mots d'indignation et de compassion qui s'imposaient. Mais il n'y a pas que les hommes qui souffrent en Méditerranée. Et la chronique récente nous offre toute une série de témoignages de ce que le patrimoine naturel et culturel, partie constitutive de la civilisation méditerranéenne, est également très fortement affecté. Alors, il y a en particulier le résultat des politiques d'austérité censées répondre à la crise économique, ne font qu'en accentuer les effets. On a vu récemment toute une série d'indications sur le fait que, par exemple, l'Espagne vendait une partie de son patrimoine naturel et notamment des zones entières de forêts primaires méditerranéennes. On a vu que la Grèce bétonnait son littoral, là aussi, pour permettre la relance économique. Où est passé Citerre, on se le demande. Et dernière chose que je voulais signaler, pour couronner le tout, on nous annonce que Washington presse l'Albanie d'accueillir l'arsenal chimique syrien pour sa destruction. Alors là, on est en pleine réalité géopolitique. Donc, d'une certaine manière, l'actualité, la chronique, ce n'est pas l'histoire, c'est la chronique, mais la chronique dément le mythe aujourd'hui. Alors, à partir de ça, je voudrais poser rapidement trois questions. Est-ce que la Méditerranée est toujours brodélienne? Est-ce que la Méditerranée est vouée à devenir l'angle mort de la mondialisation? Et la France et l'Italie, là-dedans, qu'est-ce qu'elles font? Bon, sur ma première question, j'insisterai pas à la Méditerranée brodélienne parce que je crois que tout a été dit précédemment, c'est-à-dire ce postulat d'une unité de civilisation ancrée dans la longue durée, fondée sur des valeurs anthropologiques qui dépassent toutes les singularités des histoires nationales, tout cela reste d'une certaine actualité. D'ailleurs, je ne me permettais pas, devant Maurice Aymard, de discuter l'actualité des thèses de brodéliennes. Je remarque quand même que certains néo-brodéliens, je pense en particulier à l'italien Franco Cassano, qui a écrit des choses formidables sur la pensée méridienne, me paraissent quand même un peu optimistes dans leur façon de considérer que, je cite par exemple ce qu'il dit, il Mediterraneo ha avviato un'ibridazione dei diversi, il grande antidoto contro i fondamentalismi e contro le pulizie etniche. J'espère que c'est vrai, mais je ne suis pas sûr que cette pensée, que cette rationalité qui serait propre à la Méditerranée suffise à nous garantir contre un certain nombre d'excès. Pour autant, je ne pense pas non plus que nous soyons passés de Brodel à Huntington, d'abord parce que le contenu des thèses de Huntington est tellement superficiel que ça ne vaut pas la peine d'en parler, mais néanmoins, il y a une réalité, il y a quelque chose dans la réalité qui font que la dérive des continents semble quand même aujourd'hui l'emporter sur le rapprochement des deux rives, notamment avec le développement, on en a déjà parlé, des intégrismes au sud, qui trouve par un effet de miroir son complément dans un repli identitaire qui est bien perceptible au nord, cette tendance à la sécularisation au nord et au renouveau religieux au sud. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui le danger principal soit le choc des civilisations, je crois plutôt qu'il est pour la Méditerranée le fait qu'elle se trouve désarmée face à la mondialisation, à une globalisation dont elle subit les effets pernicieux sans réellement en tirer les bénéfices, sans en capter les bénéfices et les potentialités. Bon, aujourd'hui, le monde, pour dire les choses très schématiquement en deux mots, évolue vers une sorte d'ordre multipolaire. Personne ne doit dire à quoi il aboutira, mais c'est, disons, la tendance. Et la Méditerranée, en tant qu'espace géopolitique, aborde cette phase de l'histoire mondiale en ordre dispersé. Au moment même où en Amérique latine, en Asie, en Afrique, les États s'organisent en regroupements régionaux, c'est-à-dire essayer de former des pôles qui soient capables de jouer un rôle, d'avoir une influence dans les relations internationales, l'espace méditerranéen se distingue par la faiblesse de ses systèmes de régulation et de coopération, dont l'échec des tentatives dont on a parlé, soit d'union partielle, soit de coopération globale, témoigne très, très largement. Et donc le risque est double. Le risque est un déclassement de la Méditerranée et d'une dépossession. Alors la dépossession, on dira qu'elle a commencé depuis longtemps, depuis le jour où les Anglais ont mis le pied à Gibraltar en 1704. À partir de ce moment-là, c'est vrai que des acteurs extérieurs vont conditionner le développement de la Méditerranée. Et puis après les Anglais, il y a eu les Russes, et puis il y a eu la guerre froide, et le fait que la Méditerranée soit devenue, depuis la Deuxième Guerre mondiale, très largement un lac américain, par défaut d'ailleurs de ces acteurs locaux. Le problème, c'est que les intervenants extérieurs, eux, n'ont pas comme objectif une construction culturelle ou politique. Ils ont une conception très instrumentale et utilitariste de la Méditerranée, comme un champ de manœuvre mis au profit d'intérêts commerciaux, la route des Indes pour l'Angleterre, ou d'intérêts stratégiques et de sécurité pour les États-Unis. Donc un risque de dépossession et un risque de déclassement, et malheureusement, si on fait la liste des critères, on voit bien que tant en ce qui concerne l'importance stratégique que culturelle ou économique, le rôle de la Méditerranée est plutôt déclinant. Même stratégique, je dirais, puisque les États-Unis sont quand même en phase d'une sorte de glissement qui les amène à déplacer leurs forces de sécurité navale du théâtre méditerranéen vers le théâtre pacifique. Sur le plan économique, je n'insiste pas, malgré le potentiel de développement énorme qui est réel s'il était valorisé. Et quant à l'influence culturelle, je voudrais, à titre d'effet de contraste, me borner à citer Paul Valéry lorsqu'il définissait la Méditerranée comme une machine à faire de la civilisation. Voilà ce qu'il disait. Rien de plus admirable que de voir en quelques siècles naître de quelques peuples riverains de cette mer les inventions intellectuelles les plus précieuses et parmi elles les plus pures. C'est ici que la science s'est dégagée de l'empirisme et de la pratique, que l'art s'est dépouillé de ses origines symboliques, que la littérature s'est nettement différenciée et constituée en genres bien distincts, et que la philosophie, enfin, a essayé à peu près toutes les manières possibles de considérer l'univers et de se considérer elle-même. Jamais et nulle part, dans une ère aussi restreinte et dans un intervalle de temps si bref, une telle fermentation des esprits, une telle production de richesses n'a pu être observée. Ça rend un peu nostalgique, hein, parce que ça fait quand même un certain temps qu'il n'y a pas eu d'invention culturelle majeure dans la Méditerranée. Alors, face à ce constat, j'ai peut-être noirci un peu le trait, mais bon, face à ce constat, l'Italie et la France, hein, puisque c'est ça la question, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Eh bien, je dirais qu'elles peuvent faire ce qu'elles n'ont pas voulu ou pas pu faire au cours de l'histoire récente. La France et l'Italie, qui ont contribué plus que d'autres, on le dit, à façonner ce paysage méditerranéen et à le modeler géopolitiquement, eh bien, ça fait un certain temps qu'elles n'ont plus une vision commune, si elles n'en ont jamais eu une. Je me réfère à ce qui vous a été dit hier par Gilles Pécou et Stéphane Mourlan pour le 19e et le 20e siècle, c'est-à-dire au fait que ce sont des approches, sinon antagonistes, du moins concurrentes, dictées par des intérêts économiques, des intérêts de puissance, des intérêts coloniaux, qui ont dicté les politiques respectives de la France et l'Italie. Et je dirais que plus encore que leur carence bilatérale, ce sont les défaillances de nos deux pays par rapport à la construction européenne qui me paraissent les plus graves. Je crois que la France et l'Italie n'ont pas manifesté suffisamment de force pour affirmer la dimension européenne de la Méditerranée. Il faut le dire sans détour, l'Europe, l'Union européenne, s'est construite en tournant le dos à la Méditerranée. Le marché commun est né ici, le discours de la ministre le rappelait tout à l'heure, à la conférence de Messine, Rome, c'est là qu'on a signé son traité fondateur, mais l'encre du traité de Rome n'était pas sèche que déjà le pôle central, le centre de gravité de l'Europe se déplaçait vers la Carolingie, l'Europe du Nord. Pourquoi pas, mais en tournant complètement. Et cette Europe-là, cette Europe carolingienne, elle a fréquemment et ostensiblement marqué son peu de considération pour les pays méditerranéens, souvent assimilés à un club. Bon, le président me dit que j'ai trop parlé, donc je vais m'arrêter. Je me demande quand même comment et pourquoi cette Méditerranée qui parle si fort aux créateurs, aux intellectuels, parle si peu et inspire si peu les politiques. C'est une vraie question, je ne sais pas si elle est existentielle ou autre chose, mais voilà. Alors, nous, italiques, mais nous, hommes de culture, qu'est-ce qu'on peut faire, hein ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites très, très fortement, auxquelles je me rallie. Je me demandais simplement, comme bon, il faut essayer de trouver des choses, des images un petit peu parlantes, quel type de symbole la culture peut-elle essayer d'instiller, des symboles qui parlent fortement au peuple ? Ben, je dirais que s'il fallait chercher des mythes fondateurs, on pourrait, par exemple, être bien inspiré de se remettre dans les pas d'Ulysse, de se remettre dans le sillage d'Ulysse. Par cette métaphore, ce que je voulais suggérer, c'est que l'Europe retrouve le sens de l'aventure intellectuelle, hein, telle que Dante... l'aventure intellectuelle, le goût de la découverte et de l'échange dialectique, la curiosité de l'autre, la résistance aux obstacles, ne pas être cette forteresse qui était dénoncée tout à l'heure, mais vraiment quelque chose d'ouvert, et qu'elle soit capable pour cela d'intégrer tout ce qu'il y a Attention, se mettre dans les pas d'Ulysse, ça ne veut pas dire un mythe rétrograde et mortifère. Non, ça veut dire aussi être capable d'intégrer tout ce qu'il y a de prometteur dans les innovations technologiques et sociétales. Tout ce qui se passe au sein des sociétés arabes et que nous sommes incapables de voir, comme l'a très bien dit Franco Rizzi cet après-midi. Et que tout cela et que tous ces éléments novateurs puissent être mis au service du bien commun. Est-ce que les sociétés méditerranéennes auront la capacité d'inventer ces nouvelles synthèses en redéfinissant un espace commun fondé sur leur similitude et leur diversité? Eh bien voilà l'enjeu qui se pose à elles pour l'avenir.